Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et après, nous vous présentons les rappels de titres de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le Guyana est devenu officiellement membre de la BID. Le ministre iranien de l'économie et des finances rencontre Yusuf Kala ce jeudi. L'Indonésie et la Russie intensifient la coopération dans les domaines de l'économie et de la sécurité. L'Allemagne continue d'augmenter les investissements en Indonésie. L'ambassadeur d'Indonésie a présenté ses lettres de créance au président de l'Iran. Et enfin, le ministère des Affaires religieuses va lancer un séminaire international sur le Coran. Voici le journal complet. La République coopérative du Guyana est devenue officiellement membre de la Banque islamique de développement, BID. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire de la BID, Ghassan Al-Baba, devant le conseil des gouverneurs de la BID à l'ouverture de la 41e réunion annuelle de la BID à Jakarta Convention Center mardi soir.
The secretariat confirms the receipt of the payment of the required.
Le secrétariat confirme la réception du paiement sur la souscription principale nécessité et signe et ratifie l'acceptation budgétaire de la BID. Donc, la République coopérative du Guyana est devenue un membre à part entière de la BID. En adhérant le Guyana, la BID va maintenant avoir les nouvelles responsabilités, à savoir aider à financer le développement dans divers domaines. Le président de la BID, Ahmad Muhammad Ali, a félicité le Guyana en tant que 57e membre de la BID. Cet événement était également assisté par le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Agus Martowardoyo, et le troisième président de la République d'Indonésie, B.J. Habibie. Le ministre iranien de l'économie et des finances, Ali Taibnia, rencontre le vice-président Yusuf Kala à Jakarta le jeudi pour discuter du plan de la coopération bilatérale avec l'Indonésie. C'est ce qu'a affirmé Ali Taibnia à Antara à Jakarta mercredi. Il a affirmé qu'à cette réunion, ils vont discuter certaines coopérations potentielles pour aider à l'expansion de la collaboration dans le domaine économique entre les deux pays, où il y a deux clés, à savoir établir la relation avec les banques de l'Indonésie et commencer le commerce du pétrole brut. Selon lui, ces deux choses peuvent être développées dans la coopération entre les deux pays, en particulier dans le secteur commercial. Outre de rencontrer le vice-président Yusuf Kala, sa visite en Indonésie a été précédée d'assister à la session annuelle de la Banque islamique de développement tenue à Jakarta. Le président d'Indonésie, Joko Widodo, a mené une réunion privée avec son homologue russe, Vladimir Poutine, et ensuite a présidé la réunion bilatérale Indonésie-Russie le mercredi 18 mai 2016. Une série des entretiens était effectuée dans la visite de travail du président Joko Widodo à Sochi, en Russie. Dans une séance privée, le président a exprimé sa gratitude pour les vœux très constructifs du président Poutine à l'huile de palme. Le président espère que la politique du président Poutine puisse être transmise de sorte que les exportations d'huile de palme indonésienne soient durables. À cette occasion, le président de l'Indonésie a exprimé l'intention d'acheter une propriété à Moscou qui sera utilisée comme bâtiment de l'ambassade d'Indonésie et des pensions ambassadeurs. Cependant, dans une réunion bilatérale, le président a souligné deux domaines de coopération, à savoir la coopération dans les domaines économiques et de la défense et de la sécurité. Le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie et la Russie sont membres du G20, donc les deux pays ont l'intérêt à contribuer à la reprise de l'économie mondiale. Les deux présidents se sont également mis d'accord d'augmenter l'échange des données de renseignement afin de lutter contre le terrorisme. Au cours des trois dernières années, le projet d'investissement de l'Allemagne à l'Indonésie continue d'augmenter, a déclaré le ministre indonésien de l'Industrie, Saleh Husin, quand il a rencontré le vice-ministre de l'Économie et de l'Énergie de la République fédérale d'Allemagne, Uwe Beckmeyer, et la délégation commerciale allemande. Le ministre de l'Industrie, Saleh Husin, a tenu une réunion au ministère de l'Industrie à Jakarta le mercredi avec le vice-ministre de l'Économie et de l'Énergie de la République fédérale d'Allemagne, Uwe Beckmeyer, et l'ambassadeur d'Allemagne à l'Indonésie, George Wiesel, et la délégation des entreprises allemandes. Au cours du premier trimestre de 2016, il y a 29 projets avec l'investissement de 24,6 millions de dollars américains, a déclaré Saleh Husin dans un communiqué de presse reçu mercredi à Jakarta. Les investissements allemands en Indonésie dans le secteur industriel comprennent entre autres l'industrie de transport, l'industrie des métaux de base, les produits métalliques, la machine et l'électronique, etc. À travers cette rencontre bilatérale, le ministre Saleh souhaite que les hommes d'affaires allemands puissent profiter d'une bonne occasion lors de sa visite en Indonésie pour continuer à explorer les possibilités d'investissement en contribuant à augmenter les ressources humaines dans le domaine de l'industrie. L'ambassadeur d'Indonésie en Iran et au Turkménistan, Octavino Alimuddin, a récemment présenté ses lettres de créance au président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani. À cette occasion, le président Hassan Rouhani a exprimé l'importance du rôle de l'Indonésie, en particulier dans les efforts de solution des conflits dans le monde islamique. Le président Hassan Rouhani espère que la présence de l'ambassadeur Octavino peut aider à améliorer les relations entre les deux pays. Concernant les questions bilatérales, le président Rouhani a souligné le grand potentiel et la capacité qui peuvent être augmentées par les deux pays. L'Iran est également prêt à participer aux projets d'infrastructures comme les routes, les centrales électriques, la construction de barrages et de raffineries, en particulier dans les domaines de la technique et de l'ingénierie. Pendant ce temps, l'ambassadeur Octavino Alimuddin, dans son discours, espère également que les relations entre les deux pays peuvent être intensifiées. En outre, la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement ainsi que socioculturel peuvent continuer. Le ministère des Affaires religieuses à travers le comité Pentasihan des manuscrits coraniques tiendra un séminaire international sur le Coran qui aura lieu le 30 août au 1er septembre 2016 à Jakarta. Comme annoncé la page officielle du ministère des Affaires religieuses le mercredi, un séminaire international ayant pour thème le rôle des manuscrits de développer la civilisation islamique et l'humanité devrait être un forum de rencontrer et de discuter l'expert des dirigeants des universités, des scientifiques, des religieux et des chefs religieux, ainsi que les institutions qui se concentrent sur l'étude des manuscrits du Coran dans une tentative de découvrir le rôle des manuscrits du Coran au problème de l'humanité, la société et nationalité. Le séminaire sera suivi par les instigateurs des études coraniques dans le milieu universitaire comme professeurs, chercheurs et étudiants du Coran qui est divisé en deux catégories. D'abord, les participants orateurs, à savoir ceux qui ont été invités comme conférenciers principaux ou ceux qui s'inscrivent et soumettent les papiers et ont reçu l'approbation de l'équipe d'évaluation nommée par la communauté Pentasihan des manuscrits coraniques. Deuxièmement, les participants publics, à savoir ceux qui s'inscrivent sans papier déposé à suivre toute la série de séminaires. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Sixième antenne, pour la rubrique suivante, voici donc le commentaire et pour le titre, le gouvernement obtient à nouveau le soutien au Parlement. L'élection présidentielle 2014 a présenté deux camps représentés par la coalition rouge et blanche KMP et la coalition de la Grande Indonésie KIH. La situation a contraint les partis politiques à soutenir l'un des deux camps. Cependant, après l'élection de Joko Widodo comme président et Yusuf Kalla comme vice-président soutenu par le KIH, certains partis politiques ont senti fragiles et se rapprochent à KIH, qui soutient le gouvernement actuel. L'existence des deux groupes a également fait la scission du Parlement parce qu'à cette époque, la majorité des sièges du Parlement ont été contrôlés par le KMP. Cela a été une pierre d'achoppement pour lisser certaines mesures prises par le gouvernement. Après avoir subi quelques conflits internes dans son administration après l'élection présidentielle 2014, le parti Golkar, qui était un grand parti à l'époque de Nouvel Ordre et le parti Zang de KMP, a finalement décidé de sortir de la coalition rouge et blanche et soutient le gouvernement actuel. Cette décision a été prise à la réunion extraordinaire et Setia Novanto a été élu comme nouveau président du parti Golkar à Bali lundi dernier. Setia Novanto a affirmé que Golkar a un grand pouvoir dans certaines régions indonésiennes en tant que gouverneur, région et les maires. Golkar, avec le logo de Banyan, peut aider le gouvernement de manière optimale. En plus de soutenir le gouvernement, Setia Novanto a également promis une plus grande autorité au conseil d'administration du gouvernement régional au niveau 1 et 2 du parti Golkar. En outre, il a dit la communication avec KMP à l'avenir continuera à fonctionner malgré Golkar n'est plus partisan de KMP. D'autre part, le vice-président de Gerindra, Fadli Zon, a également admis qu'il n'était pas surpris par la décision du parti Golkar de sortir de la coalition rouge et blanche KMP et Golkar soutient le gouvernement de Joko Widodo et Yusuf Kalla. Il est sûr que la communication de Golkar avec KMP va continuer à fonctionner. Fadli Zon a également affirmé, bien que KMP perde l'un des partenaires de la coalition, il n'y a pas de problème pour Gerindra. Le vice-président du Parlement, Fahri Hamzah, qui était très vocal dans le soutien de KMP, respecte la décision de Golkar de sortir de la coalition rouge et blanche KMP. Selon Fahri, il est une chose ordinaire, compte tenu la coalition formée sans la cloison pour communiquer la coalition de la Grande d'Indonésie, KIH. Pendant ce temps, le président du Centre de chercheurs politiques de l'Institut indonésien de sciences, LIPI, Syamsuddin Haris, considère que l'étape de Golkar va plus lisser l'administration de Joko Widodo et Yusuf Kalla, principalement liée à la décision au Parlement qui a tendance à être stable. Mais il a également souligné que l'inclusion de Golkar dans le gouvernement actuel ne signifiait pas les cadres Golkar d'entrer dans les rangs du gouvernement comme occupant le poste de ministre, par exemple. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ces amis, nous vous racontons encore dans notre rubrique quotidien aujourd'hui dans l'histoire de l'édition 19 mai. On va commencer le 19 mai 1921. La figure religieuse indonésien Hamka a démissionné du président des Ulémas indonésiens au MUI. « Haji Abdul Malik Karim Amrullah, connu sous le nom Hamka, né dans le village de Batang Manijo, l'ouest de Sumatra, au 17 février 1908, il était un éminent auteur indonésien, ulema et homme politique. À l'époque coloniale hollandaise, Hamka était le rédacteur en chef des magazines indonésiens tels que Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat et Gema Islam. Hamka a décédé le 24 juillet 1981, mais ses œuvres et les influences sont toujours présentes jusqu'aujourd'hui, en particulier dans la croissance et la modernisation de l'islam. Pas seulement comme un érudit et un écrivain dans son pays, mais il a été très apprécié aussi à Malaisie et à Singapour. En chance le 19 mai 1943, sous la Seconde Guerre mondiale, le Premier ministre de Grande-Bretagne, Winston Churchill, et le président américain Franklin D. Roosevelt a décidé le 1er mai 1944 comme le jour de l'atterrissage du passage au niveau de Détroit d'Angleterre. Sir Winston Leonard Spencer Churchill était un homme politique et auteur de la Grande-Bretagne, le plus connu comme le premier ministre de Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Son rôle en tant que stratège, orateur, diplomate et un homme politique de premier plan, Churchill fait l'une des figures les plus influentes dans l'histoire du monde en 1953. Churchill a reçu le prix Nobel de littérature pour la contribution qu'il a donnée dans son essai sur le livre anglais et l'histoire du monde. On termine le 19 mai 1974, qui sera élu président de la République. Valérie Guissard, destin devance de peu avec 50,8% contre 49,2%. Le candidat socialiste François Mitterrand est devient président de la République française. L'union de la gauche autour d'un unique candidat avait pourtant proposé Mitterrand un score de 43,6% au premier tour, mais Guissard saura réunir les voix de la droite et surtout convaincre les Français. Avec l'os du débat d'officier dans deux tours, une phrase qui restera dans les mémoires collectives, vous n'avez pas le monopole du cœur. Chers amis, c'était notre histoire aujourd'hui de ce soir, l'édition 19 mai. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point ayant pour titre « Face à la communauté économique d'ASEAN CEA, le gouvernement donne la priorité à la croissance des zones frontalières ». Le ministère des Villages, du Développement des régions défavorisées et de la Transmigration concentre son budget pour développer les zones frontalières et les îles ultra-périphériques, notamment pour faire face aux défis de l'ère de la communauté économique d'ASEAN CEA. Le directeur général pour le développement des zones spécifiques, PDTU, du ministère des Villages, du Développement des régions défavorisées et de la Transmigration, Supra Yoga Hadi, a déclaré que le gouvernement vise à réaliser la lutte contre la pauvreté à 80 des 122 zones défavorisées. À présent, l'Indonésie a 41 résidences et villes dans la région frontalière et 28 résidences dans les petites îles ultra-périphériques. En 2015, le budget total d'un montant d'un 5 trillion roupiah obtenu par PDTU, 1,2 trillion roupiah est utilisé pour la zone frontalière et les îles ultra-périphériques, comme affirmé Supra Yoga dans un séminaire national ayant pour thème « Résoudre l'arriération des îles » à l'Université Persa d'Indonésie IAI à Jakarta le mercredi. Selon Supra Yoga, la zone frontalière doit être fortement gardée au moment de la CEA. Le développement n'est pas seulement affecté par les approches de la sécurité et du bien-être, mais mettre aussi au point à l'aspect de la croissance. Suprayoga a dit, c'est la zone frontalière et les îles extérieures qui sont très influencées par l'impact de la CEA, mais le développement aux petites îles est encore inquiétant. De l'infrastructure d'éducation, par exemple, la distance moyenne pour aller à l'école primaire atteint 6,80 km et 12,14 km pour l'école secondaire. Bien que basé sur le règlement du ministère de l'Éducation nationale numéro 15/2010 sur les normes de service national, le standard de kilométrage pour l'école primaire soit 3 km et 6 km pour l'école secondaire. En outre, le pourcentage de la zone pavée dans les îles défavorisées est 12,28%. Le rapport de l'électrification dans les régions éloignées des îles ne représente que 70,21%. Ce chiffre est loin du ratio national d'électrification qui atteint 96,0%. Cependant, 60,85% des zones frontalières et des îles éloignées ne sont pas atteintes par le signal cellulaire. Par conséquent, Suprayoga a exprimé la nécessité de la participation de tous les éléments de la société, y compris le milieu universitaire, notamment à développer les ressources humaines dans la zone frontalière. Suprayoga a averti, le développement économique local serait optimal si les ressources humaines sont bonnes. Il devrait être en mesure de bien utiliser la technologie appropriée. Ici, des universités peuvent participer activement. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir. La République coopérative du Guyana est devenue officiellement membre de la Banque islamique du développement, BID. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire de la BID, Ghassan Al-Baba, devant le Conseil des gouverneurs de la BID à l'ouverture de la 41e réunion annuelle de la BID à Jakarta Convention Center mardi soir.
The Secretariat confirms the receipt of the payment of the
required. Le secrétariat confirme la réception du paiement sur la souscription principale nécessité et signe et ratifie l'acceptation budgétaire de la BID. Donc, la République coopérative du Guyana est devenue un membre à part entière de la BID. En adhérant le Guyana, la BID va maintenant avoir les nouvelles responsabilités, à savoir aider à financer le développement dans divers domaines. Le président de la BID, Ahmad Muhammad Ali, a félicité le Guyana en tant que 57e membre de la BID. Cet événement était également assisté par le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Agus Martowardoyo, et le troisième président de la République d'Indonésie, B.J. Habibie. Le ministre iranien de l'économie et des finances, Ali Taib Nia, rencontre le vice-président Soufkala à Jakarta le jeudi pour discuter du plan de la coopération bilatérale avec l'Indonésie. C'est ce qu'a affirmé Ali Taib Nia à Antara à Jakarta mercredi. Il a affirmé qu'à cette réunion, ils vont discuter certaines coopérations potentielles pour aider à l'expansion de la collaboration dans le domaine économique entre les deux pays, où il y a deux clés, à savoir établir la relation avec les banques de l'Indonésie et commencer le commerce du pétrole brut. Selon lui, ces deux choses peuvent être développées dans la coopération entre les deux pays, en particulier dans le secteur commercial. Outre de rencontrer le vice-président Soufkala, sa visite en Indonésie a été précédée d'assister à la session annuelle de la Banque islamique de développement tenue à Jakarta. Le président d'Indonésie, Joko Widodo, a mené une réunion privée avec son homologue russe, Vladimir Poutine, et ensuite a présidé la réunion bilatérale Indonésie-Russie le mercredi 18 mai 2016. Une série des entretiens était effectuée dans la visite de travail du président Joko Widodo à Sochi, en Russie. Dans une séance privée, le président a exprimé sa gratitude pour les vœux très constructifs du président Poutine à l'huile de palme. Le président espère que la politique du président Poutine puisse être transmise de sorte que les exportations d'huile de palme indonésienne soient durables. À cette occasion, le président de l'Indonésie a exprimé l'intention d'acheter une propriété à Moscou qui sera utilisée comme bâtiment de l'ambassade d'Indonésie et des pensions ambassadeurs. Cependant, dans une réunion bilatérale, le président a souligné deux domaines de coopération, à savoir la coopération dans les domaines économiques et de la défense et de la sécurité. Le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie et la Russie sont membres du G20, donc les deux pays ont l'intérêt à contribuer à la reprise de l'économie mondiale. Les deux présidents se sont également mis d'accord d'augmenter l'échange des données de renseignement afin de lutter contre le terrorisme. Au cours des trois dernières années, le projet d'investissement de l'Allemagne à l'Indonésie continue d'augmenter, a déclaré le ministre indonésien de l'Industrie, Saleh Husin, quand il a rencontré le vice-ministre de l'Économie et de l'Énergie de la République fédérale d'Allemagne, Uwe Beckmeyer, et la délégation commerciale allemande. Le ministre de l'Industrie, Saleh Husin, a tenu une réunion au ministère de l'Industrie à Jakarta le mercredi avec le vice-ministre de l'Économie et de l'Énergie de la République fédérale d'Allemagne, Uwe Beckmeyer, et l'ambassadeur d'Allemagne à l'Indonésie, George Wiesel, et la délégation des entreprises allemandes. Au cours du premier trimestre de 2016, il y a 29 projets avec l'investissement de 24,6 millions de dollars américains, a déclaré Saleh Husin dans un communiqué de presse reçu mercredi à Jakarta. Les investissements allemands en Indonésie dans le secteur industriel comprennent entre autres l'industrie de transport, l'industrie des métaux de base, les produits métalliques, la machine et l'électronique, etc. À travers cette rencontre bilatérale, le ministre Saleh souhaite que les hommes d'affaires allemands puissent profiter d'une bonne occasion lors de sa visite en Indonésie pour continuer à explorer les possibilités d'investissement en contribuant à augmenter les ressources humaines dans le domaine de l'industrie. L'ambassadeur d'Indonésie en Iran et au Turkménistan, Octavino Alimuddin, a récemment présenté ses lettres de créance au président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani. À cette occasion, le président Hassan Rouhani a exprimé l'importance du rôle de l'Indonésie, en particulier dans les efforts de solution des conflits dans le monde islamique. Le président Hassan Rouhani espère que la présence de l'ambassadeur Octavino peut aider à améliorer les relations entre les deux pays. Concernant les questions bilatérales, le président Rouhani a souligné le grand potentiel et la capacité qui peuvent être augmentées par les deux pays. L'Iran est également prêt à participer aux projets d'infrastructures comme les routes, les centrales électriques, la construction de barrages et de raffineries, en particulier dans les domaines de la technique et de l'ingénierie. Pendant ce temps, l'ambassadeur Octavino Alimuddin, dans son discours, espère également que les relations entre les deux pays peuvent être intensifiées. En outre, la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement ainsi que socioculturel peuvent continuer. Le ministère des Affaires religieuses, à travers le comité Pentasihan des manuscrits coraniques, tiendra un séminaire international sur le Coran qui aura lieu le 30 août au 1er septembre 2016 à Jakarta. Comme annoncé la page officielle du ministère des Affaires religieuses le mercredi, un séminaire international ayant pour thème le rôle des manuscrits de développer la civilisation islamique et l'humanité devrait être un forum de rencontrer et de discuter l'expert des dirigeants des universités, des scientifiques, des religieux et des chefs religieux, ainsi que les institutions qui se concentrent sur l'étude des manuscrits du Coran dans une tentative de découvrir le rôle des manuscrits du Coran au problème de l'humanité, la société et nationalité. Le séminaire sera suivi par les instigateurs des études coraniques dans le milieu universitaire comme professeurs, chercheurs et étudiants du Coran qui est divisé en deux catégories. D'abord, les participants orateurs, à savoir ceux qui ont été invités comme conférenciers principaux ou ceux qui s'inscrivent et soumettent les papiers et ont reçu l'approbation de l'équipe d'évaluation nommée par le comité Pentasihan des manuscrits coraniques. Deuxièmement, les participants publics, à savoir ceux qui s'inscrivent sans papier déposé à suivre toute la série de séminaires. Serditeur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Bondowoso à Java Est. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la Voix d'Indonésie. La résidence Bondowoso à Java West a un grand potentiel touristique, en particulier la nature. Le cratère Ijen dans le district Sempol et Sumberwingin est l'une des attractions naturelles populaires à Bondowoso. Beaucoup de touristes montent au mont Ijen pour voir la beauté du cratère Ijen et ses environs. Le cratère Ijen est un lac de cratère acide situé au sommet du mont Ijen avec la hauteur de 2443 mètres au-dessus du niveau de la mer à une profondeur du lac de 200 mètres et la zone du cratère qui atteint 5466 hectares. En plus du cratère Ijen, en fait, Bondowoso a également un autre cratère assez beau nommé cratère Wurung. Le cratère Wurung se trouve administrativement au village Kalianyar, le district Sempol, Bondowoso. La région, qui a une superficie plus de 100 hectares, est inclue dans la gestion Perhutani Bondowoso. De Bondowoso, pour se rendre à la région surnommée Highland Paradise, on peut prendre un véhicule à deux ou quatre roues. Il y a deux routes alternatives, à savoir à travers la zone de plantation Jampit et Curah Macan. La route vers la colline qui a l'altitude d'environ 1700 mètres au-dessous du niveau de la mer est relativement facile. Si on part de la ville Bondowoso, il faut environ 2 heures pour atteindre l'emplacement. Pendant le voyage au cratère Wurung, vous pouvez profiter du paysage naturel incroyable allant de forêts de pins jusqu'à ce que le jardin de fleurs le long de la plantation Jampit. On l'appelle le cratère Wurung en raison de sa condition géographique qui ressemble à un cratère qui est en vain. Wurung en javanais signifie pas ou en vain. Il est dit que cette région faisait autrefois partie de la caldeira du mont Ijen. Il peut être vu à partir des collines comme une caldeira béante. La randonnée vers le cratère Wurung de la zone de stationnement vers la colline Pandang a besoin d'environ 25 minutes. En arrivant au sommet de la colline Pandang, le panorama naturel est enchanteur. Pour autant que l'œil pouvait voir, ce n'était rien mais la savane et les collines verdoyantes. À travers la vallée de savane, il y a la colline Cincin. On l'appelle la colline appelée Cincin, soit la colline Ano, parce qu'au sommet de la colline, il y a une flaque d'eau comme une caldeira de montagne ayant le diamètre d'environ 100 mètres qui est rond comme un anneau. Pour les amateurs de photographie, le beau paysage au cratère Wurung est l'endroit idéal pour chasser les images. Si la condition météorologique est bonne, à la distance, on peut voir la levrure béante de la caldeira Hygiène. À différents angles, apparaît également le mont Raung avec une caldeira trop raide. Pour ceux d'entre vous qui aiment voyager en défi, vous pouvez essayer le parapente et le delta plane. Le cratère Wurung commence à être vu pour le développement du sport de parapente et delta plane. Chers amis, c'est la rubrique du magazine Couture pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant encore sur l'Indonésie. Merci de votre fidélité. À demain.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers amis lavois de l'Indonésie, voici le magazine de Warna-Warni ou Couleurs indonésiennes avec moi, Mama Suwartono. Je suis ravi de vous rencontrer dans ce magazine pour aujourd'hui. Et pour ce soir, je vous présente à propos de Tour de Flores 2016. Et assurez-vous que vous restez avec nous dans streaming audio www.voi.co.id ou bien via la diffusion directe notre émission par en courte, bien sûr, sur la fréquence 9525 kHz. Chers amis, aujourd'hui à l'île de Flores, en province de Nusa Tenggara de l'Est, il existe la course internationale de cyclistes Tour de Flores qui se déroule du 19 au 23 mai. Cet événement du tourisme sportif a eu lieu à introduire diverses destinations touristiques sur l'île de Flores et le but c'est aussi augmenter la fréquentation touristique en province. Cette course cycliste sera entrecoupée avec des activités touristiques telles que les voir, la visite de volcans ainsi que des attractions culturelles. Chers auditeurs auditrices, les participants de cette course sont membres de l'Union des cyclistes internationaux qui se compose de 20 équipes avec le total de 200 cyclistes. Ceux de l'Indonésie, environ 20 personnes, et les cyclistes locaux, 10, qui ont rejoint dans une équipe. Les participants doivent passer la distance plus de 660 km et diviser en 5 étapes. Larantuka Momere, Ende Momere, Ende Bajawa, Bajawa Ruteng, ainsi que la phase finale Ruteng Labuan Bajo. Et nous espérons qu'ils sont arrivés dans le quartier Nusa et puis ils passent la nuit dans l'Embata. Et 17 mai ou bien ils ont escorté au bateau traversant vers Larantuka. À Larantuka, le gouverneur Frans Liburaya fait attendre la sortie des participants. Chers amis, pendant à Larantuka, la Tuitrasong de Flores de l'Est invitera les participants à visiter des destinations touristiques intéressantes. Cependant, la course qui est commencée le début à Larantuka Flores de l'Est et se termine à la ville de Labuan Bajo, c'est-à-dire au 26 mai 2016. Et selon l'agenda, le président Joko Widodo y sera assisté. Le président est prévu pour accueillir les participants. Tour de Flores en 2016 couvre aussi des événements touristiques qui comprennent en fait des activités pré-événements, comme visite de Kalimutu du 16 jusqu'à 18 mai, ainsi que la visite du parc national de Komodo et place de Pink ou Rose au 24 jusqu'à 26 mai. Chers amis, c'était le magasin de warna-warni aux couleurs indonésiennes, édition de jeudi, avec le titre Le Tour de Flores. Merci de votre fidélité et attention et au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine musical. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous allons vous présenter Sandro Tobing. Pour ouvrir notre rencontre, voici la chanson de Sandro Tobing intitulée « Nuance d'amour ». Bonne écoute. Ce que j'étais, c'était la chanson de Sandro Tobin intitulée Nuances d'amour. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.co.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Sandro Tobin, né le 17 mars 1963, est un chanteur solo de pop de l'Indonésie. Sandro avait gagné le premier champion du concours de chant, la vedette de la radio et de la télévision aux années 1980. De ce concours de chant, Sandro a commencé sa carrière dans l'industrie musicale de l'Indonésie. Certains producteurs s'étaient intéressés à un bel homme de Medan à enregistrer leur chanson. Bon, Serge, avant que nous en savions plus sur ce chanteur, écoutons maintenant sa chanson intitulée « Accueillir l'amour ». Bonne écoute.
Melanda, getarkan asmara.
Chers amis de l'antenne, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec un chanteur, Sandro Tobing. La présence de Sandro Tobing dans l'industrie de la musique pop indonésie aux années 80 a donné sa propre couleur. Grâce à sa maturité vocale, Sandro a gagné avec succès le goût des amateurs de la musique pop indonésienne. Après qu'il soit succès dans l'industrie musicale indonésienne, Sandro a commencé à s'intéresser au monde de films. Il a joué certains cinémas électroniques. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons intitulées « Notre amour rouge et noir » et « Attendre l'amour ». Bonne écoute et au revoir.
Putih melati bunga kasihku ini di dalam diri engkau tumbuh dan bersemi. Ku rasa hasrat lirik menyapa di selara yang tak berdaya. Mungkinkah nurani cinta kini meraja, asmara telah tiba dan milik kita berdua. Ada atau juga tiada, merah hitam cinta milik kita. Senja kini semakin temara. Dan merah hitam cinta kita berdua. Cinta kini meraja, asmara telah tiba dan milik kita berdua. Ada atau juga tiada.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Ini kah awal bencana.
C'est la fin de notre émission, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.